Bonjour, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, pour le jeudi de l'Ascension, on se replonge dans les années 90 avec la sortie d'un très joli roman, L'odeur de la colle en peau. Ensuite, on va pousser les portes d'un pollinarium destiné à aider les personnes allergiques et on visionne les vidéos de personnalités qui nous parlent des œuvres d'art du musée d'Orsay à Paris. Mais avant tout cela, c'est l'actu de ce jeudi 30 mai. Bonjour Denis Farou.
Bonjour Frédéric Le Tournier, bonjour à tous.
Le jeudi de l'Ascension est synonyme de sortie, il y a donc du monde sur la route.
On va vérifier avec les secteurs encombrés au lendemain du record de bouchons en France, 1340 km de bouchons cumulés sur la journée.
Les premières épreuves du bac vont-elles se tenir dans de bonnes conditions?
Pour l'heure, des syndicats menacent de faire grève le 17 juin, c'est le jour de la philo.
L'abus de consommation d'aliments ultra transformés peut nuire à la santé.
La dernière enquête effectuée auprès de 100 000 personnes pointe du doigt le risque cardiovasculaire, on va voir les détails.
Quelle est la personnalité politique qui remporte le plus l'adhésion des Français dans le sondage Odoxa du jour?
On peut parler de surprise, Nicolas Ballu.
Ah oui, c'est Yannick Jadot, vous savez, la tête de liste Europe Écologie Les Verts aux européennes.
Et sinon, quoi de neuf à Roland-Garros, Thomas Séché?
Eh bien, Gilles Simon vient de perdre le premier set 6-1, mais sinon, ça se passe bien pour les Français, globalement.
Bienvenue à tous dans Une Heure en France.
Une Heure en France, Frédéric Le Tournier, Denis Farou, sur France Bleu.
Et c'est souvent sur la route que l'on commence à cette période de l'année. Et pour cause, le week-end de l'Ascension est traditionnellement très chargé.
Et en plus, la météo va être au rendez-vous, enfin surtout ce week-end. On vérifie au PC Mobilité de Radio France avec beaucoup de monde depuis 8h30-9h ce matin, Soisigbourg.
Exactement Denis, ça s'est chargé notamment du côté de la Normandie sur la 13. Une heure de bouchon quand vous partez de Paris et des Yvelines en direction de Rouen et Caen. Puis encore des bouchons pour rejoindre Deauville et Honfleur. Du côté d'Avranches et de Saint-Malo, là aussi ça coince hein, sur la Nationale 176, une grosse demi-heure de ralentissement de Roselandrieux vers Plouer-sur-Rance. Des bouchons aussi pour arriver à Rennes par la 81 et Laval et ensuite pour aller à Lorient et Vannes. Du côté de la Baule, ça bouchonne depuis Sautron jusqu'au Temple de Bretagne en venant de Nantes et puis en Vendée à la barre de Mont et de Boin à Beauvoir-sur-Mer sur la départementale 758. En Charente-Maritime, plusieurs bouchons pour vous rendre sur l'île d'Oléron depuis Marennes et la départementale 26, comptez une demi-heure. C'est très compliqué aussi sur la 10 de Paris jusqu'à Orléans direction Bordeaux et l'Espagne. Même chose sur la 7 entre Lyon et Orange, près d'1h10 de bouchons cumulés. Et enfin, ce très gros bouchon à vous signaler sur la 75 direction Montpellier, 1h30 entre Cornu et Poujol depuis Millau.
En effet, Soisigbourg au PC Circulation de Radio France. Merci Soisig.
On a battu un drôle de record hier, celui des bouchons.
1340 km de bouchons cumulés en France, dont une petite moitié en Île-de-France. Le précédent record datait de 2007, veille de pont de l'Ascension également.
2017, vous avez dit 2007.
Oui, 2017, absolument.
Désolé de vous parler déjà du retour de pont dimanche, mais la journée sera classée rouge avec des difficultés, notamment dans le Grand Ouest.
En Bretagne, en Normandie, dans les Pays de la Loire, en région Centre-Val de Loire, en direction de Paris. En Île-de-France, la circulation sera très dense sur les autoroutes A10, A6 et A13 dès la fin de la matinée et jusque tard dans la soirée.
On ne peut que vous recommander d'être prudent pour arriver à bon port et éviter les ennuis, car les gendarmes veillent au grain avec de gros bataillons mobilisés.
On vous suit en Alsace, Marie Roussel, près de Célestat.
Posté derrière des buissons, radar laser devant les yeux, trois gendarmes contrôlent discrètement la vitesse des automobilistes.
Il est à 58.
Verdict.
On a des comportements assez sérieux.
Pour l'instant, donc, sur cet axe très fréquenté par les frontaliers, les 80 km/h sont bien respectés. Mais le week-end de l'Ascension, lui, ne fait que commencer. D'après le sous-préfet de Célestat, Erstein, Alexandre Piton, tous les critères sont réunis pour relever le niveau de vigilance des autorités.
Il fait beau, il y a beaucoup de transhumance sur des lieux un petit peu de vigilature du week-end. Donc forcément, c'est le volume de véhicules qui fait qu'il y a plus de risques.
D'autant que les chiffres de la sécurité routière dans le Bas-Rhin ne sont pas bons. 17 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'année.
On est sur des chiffres qui sont en légère hausse. Bon, il y a toujours trop d'accidents, mais c'est vrai qu'il y a un relâchement des comportements, alors spécialement avec certains radars qui ont été détruits, la nouvelle limitation à 80 km/h qui n'est pas forcément respectée ou pas forcément comprise.
Le commandant d'escadron départemental de la sécurité routière, commandant Andrés, a donc un message pour tous ceux qui prennent le volant.
Nous veillerons tout le week-end, donc les départs et retours, c'est quelque chose d'important. La route doit être partagée et donc respecter les règles de circulation.
Autre conseil, pour éviter les bouchons, partez tôt dans la matinée ou bien en fin de soirée.
Marie Roussel avec les gendarmes sur le bord de la route de l'Ascension.
Du monde sur la route, ça veut dire aussi du monde dans les gîtes, les campings ou les hôtels, et ça se présente bien en Normandie.
Sur la côte, à Dieppe, tout est pratiquement complet. D'ailleurs, la région se porte plutôt bien de ce côté-là en ce moment. Ludovic Cardonagil est le directeur de l'Office du tourisme de Dieppe.
On a senti quand même dès le début des vacances scolaires de printemps une forte fréquentation à Dieppe et aux alentours, que ce soit au niveau des vacances scolaires de notre zone, mais également de la zone des Parisiens. Je pense qu'il y a quand même une évolution assez significative. On voit la saison dernière, on a eu un temps magnifique, et là je parle au niveau normand en général, hein. On a eu une très forte fréquentation et donc forcément un accroissement de notoriété. Et je pense que là, au printemps, on en a ressenti un petit peu les conséquences, et malgré la météo qui n'était pas parfaite, on a eu quand même une fréquentation assez soutenue. On a pu remarquer que de nombreux baromètres nationaux ou internationaux, du coup, plaçaient la Normandie l'année dernière dans une des 10 régions à visiter, etc. On a eu beaucoup de retombées, et concrètement, on espère effectivement pouvoir les concrétiser dès cette année.
Certains profitent du week-end pour se reposer donc, mais d'autres travaillent ou révisent parce que le bac approche. Les épreuves commencent dans moins de 3 semaines, et il y a une menace de grève d'enseignants pour le premier jour, le 17 juin.
Ils veulent dénoncer la réforme du lycée, la loi Blanquer pour une école de la confiance, et demandent aussi des revalorisations salariales. C'est une décision rare, prise hier soir en intersyndicale. Les profs n'avaient pas le choix, dit Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES-FSU.
C'est rarissime, c'est exceptionnel, hein. C'est pour ça que ça souligne la gravité de la situation. On en arrive là pourquoi ? Parce que ça fait quand même plusieurs mois que dans les établissements, on a eu des grèves, on a eu des manifestations nationales. La réponse du ministre, c'est « festival de bobards », pour reprendre une de ses expressions. On bouge rien, j'ai un calendrier. Donc on a vraiment le sentiment d'une espèce de mépris. Tout ça fait qu'à un moment, il y a une exaspération telle qu'on se dit, mais enfin, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il entende, quoi? Et pour qu'il entende, eh ben, peut-être il faut frapper un coup fort. C'est lui dire, attendez, monsieur le ministre, nous, on est très attachés à un bac national. Vous êtes en train de le mettre en cause. Eh bien, attention, vous avez encore la possibilité de réagir là dans les quelques jours qui viennent. Mais autrement, vous porterez la responsabilité de dysfonctionnement le 17 juin.
Une grève, le premier jour du bac, la méthode ne fait pas l'unanimité.
La PEP, la Fédération des parents d'élèves, regrette l'initiative qui risque de nuire évidemment aux candidats. Samuel Civi est le porte-parole de la PEP.
Je peux comprendre tout à fait la difficulté pour les syndicats de professeurs et tous les professeurs de se faire entendre du ministre. Mais je trouve que là, on fait vraiment porter la chose sur les élèves. Le ministère peut prendre des professeurs à la retraite, hein, réquisitionner d'autres personnels pour venir surveiller les épreuves. Mais je trouve que là, on rajoute du stress aux élèves. Et en général, les élèves qui payent ces choses-là sont les élèves déjà qui n'ont pas eu de bac blanc dans certains établissements, qui ont déjà fait les frais de pas mal de choses. Et ça sera les plus faibles qui auront peut-être des risques d'avoir des mauvais résultats au baccalauréat.
La menace d'une grève le premier jour du bac à suivre donc.
La dernière étude en date qui se penche sur nos assiettes n'est pas vraiment rassurante.
L'INSERM a mené une vaste enquête sur les habitudes alimentaires de 100 000 Français et il ressort que l'abus d'aliments industriels ultra transformés augmenterait le risque de faire un AVC ou un infarctus.
Des sodas sucrés, des soupes déshydratées, des barres chocolatées, des steaks végétaux reconstitués ou encore du jambon qui a été conservé dans autre chose que du sel.
Mathilde Touvier est la directrice de recherche qui a piloté l'étude.
On a observé que pour une augmentation de 10 points dans la part globale d'aliments ultra transformés dans le régime alimentaire, on avait une augmentation d'environ 12% du risque cardiovasculaire.
Est-ce qu'on sait ce qui, dans ces aliments transformés, provoque ces risques ?
Plusieurs hypothèses. On a l'hypothèse de leur qualité nutritionnelle, hein, puisqu'en moyenne, ce sont des aliments plus riches en sucre, en sel, en acides gras saturés, moins riches en vitamines, minéraux. Mais par contre, même lorsqu'on prend ça en compte, l'association perdure. Donc il y a d'autres hypothèses, comme par exemple certains additifs ou encore certains composés qui sont formés au cours des procédés de transformation ou encore potentiellement certains composés qui proviendraient des emballages, notamment certains emballages plastiques au contact de ces aliments.
La directrice de recherche de l'INSERM avec Marc Fauvel.
On ne vous rend pas compte de tous les sondages nombreux et répétitifs concernant les politiques, mais celui-ci est le premier après les élections européennes qui a réservé quelques surprises.
Disons qu'on n'aurait pas parié il y a quelques jours sur le nom de la personnalité politique préférée des Français, Nicolas Ballu. C'est Yannick Jadot.
Ah oui, c'est semble-t-il du jamais vu. Il y a une semaine, dans notre grande enquête France Bleu sur les européennes, 60% des personnes interrogées disaient « Je ne connais pas assez Yannick Jadot pour avoir une opinion sur lui ». Il semblerait qu'ils en aient une, désormais.
Alors, une progression fulgurante de 20 points dans ce sondage Odoxa.
Voilà, il dépasse Marine Le Pen et Jean-Yves Le Drian. C'est la surprise des européennes, donc prime à la victoire, en quelque sorte, peut-être prime aux débatteurs, d'ailleurs, prime à l'écologiste également, peut-être que les sondés veulent envoyé de nouveau ce signal que l'environnement, l'écologie est désormais l'une des préoccupations majeures des Français. On va nuancer toutefois, le nombre des sondés qui éprouvent de la sympathie pour Yannick Jadot dépasse très largement ceux qui soutiennent effectivement son action.
Donc voilà que Yannick Jadot est en quelque sorte un people de la politique.
Oui, il va devoir capitaliser là-dessus l'image en vue des municipales, de la présidentielle, en vue aussi de la recomposition de la gauche autour de son parti, parce qu'à gauche, Yannick Jadot progresse de 25 points. Il devient bien plus populaire que Jean-Luc Mélenchon.
Merci Nicolas Ballu.
La police hongroise a ouvert une enquête criminelle sur l'un des plus graves naufrages qu'ait connu le pays.
7 morts et 21 disparus parmi un groupe de touristes sud-coréens qui naviguaient sur un bateau d'excursion sur le Danube, au cœur de Budapest.
13h11 sur France Bleu, la suite du Nord en France, c'est un passage à Roland-Garros. On l'envoie de beaux matchs avec notamment un duel franco-français hier qui va rester dans les mémoires. Le temps de partager cette initiative qui veut créer du lien entre les jeunes et la police pour détendre l'atmosphère dans certains quartiers, c'est l'opération Prox Aventure.
Des jeux, des activités pour les enfants, les jeunes du quartier, de la boxe, du laser game, de l'escalade ou du secourisme. Avec des jeunes, des policiers et des pompiers aussi, vous avez suivi une opération à Metz Roméo Van Maastricht.
Aujourd'hui, tu vas jouer le rôle d'un policier. Tu vas devoir essayer de m'arrêter en même temps.
Sur ce stand, les enfants sont équipés de casques et de matraques en mousse. Ils doivent se battre contre des policiers. L'objectif pour Jean-Marc Bélinger, l'organisateur de l'événement, mieux se connaître et casser les a priori.
C'est créer un temps de convivialité qui va permettre dans le futur d'avoir une autre image un peu de ces personnes qui interviennent tout d'abord pour aider les gens, mais aussi vice-versa, faire un peu tomber les stéréotypes qu'on peut avoir les uns et des autres sur les gens des quartiers et inversement les gens des quartiers sur les forces de l'ordre.
Au secours, au secours!
Alicia, 13 ans, vient d'assister à son premier cours de secourisme avec des pompiers.
Si par exemple là maintenant je venais à voir quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, bah c'est sûr que bah, là maintenant je sais comment faire.
Des moments pour apprendre et pour faire connaissance, c'est primordial pour Maxime Richard, policier municipal à Metz depuis 5 ans.
Ça nous est arrivé 6-7 mois plus tard de tomber sur des jeunes qu'on a vus, sur des contrôles dans des squats où il y avait les petits frères et les grands frères, et ça a vachement servi. Le dialogue était beaucoup plus simple, le message est passé, puis les jeunes étaient contents de nous revoir, ils nous rappelaient par notre prénom, c'est une bonne opération.
Plus de 300 enfants sont venus jouer avec les forces de l'ordre, ils ont plébiscité un stand en particulier, celui pour prendre sa photo personnalisée avec les policiers.
Roméo Van Maastricht à France Bleu Lorraine et l'opération avec des jeunes et les policiers.
Lens et Dijon jouent ce soir la première manche du barrage avec une place en Ligue 1 à la clé.
Un retour dans l'élite pour Lens, 4 ans après, ou un maintien en Ligue 1 pour Dijon.
C'est Chelsea qui a remporté cette année la Ligue Europa face à Arsenal et c'est Lyon qui est ravi.
Chelsea est déjà qualifié pour la Ligue des Champions, ça fait une place de plus à l'indice UEFA pour un club et c'est un club français. Et c'est Lyon qui a terminé 3e et qui se retrouve directement qualifié. C'est un peu technique, non ?
J'ai rien compris.
Rappelez-vous d'une chose, Lyon est ravi.
Ah ben voilà, c'est parfait. On parlait de Roger Federer, 37 ans hier dans Une Heure en France. Un autre joueur du même âge se fait remarquer. C'est le français Nicolas Mahut, qualifié pour le 3e tour.
Il est fou ce sport. C'est un sport un peu dingue. C'est aussi la magie de Roland qui permet aux Français de se transcender. Moi, quand je regardais Roland depuis tout petit, il y avait toujours un exploit d'un Français. Chaque année, il y avait un Français qui battait soit une grosse tête de série, soit qui faisait un match en 5-7 extraordinaire. Et ça n'avait jamais été moi. Et je me suis dit, mais je vais passer toute ma carrière 20 ans de Roland sans le faire une fois. Et finalement, bah, c'est arrivé pour moi cette année. Donc, je suis vraiment très, très fier. Ouais.
Thomas Séchier, vous, comme Nicolas Mahut, vous regardez Roland depuis tout petit. Force est de reconnaître qu'il y a du beau jeu et du spectacle dès le début cette année.
Et pas de pluie, ça aussi, c'est fou. On parlait du nouvel exploit de Nicolas Mahut. Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'il avait le dos en compote il y a encore 15 jours. Il a même failli rendre l'invitation des organisateurs. Et finalement, le voilà donc qui fait son meilleur Roland-Garros à 37 ans. Mahut qualifié pour le 3e tour, comme Benoît Paire, lui qu'on moque souvent. Vous le connaissez pour ses pétages de plomb sur les cours. Et bien hier, il est resté zen jusqu'au bout pour battre son copain Herbert. 4h33 de combat dans un cours. Suzanne Lenglen en délire. Et puis le troisième qualifié français, c'est Corentin Moutet, 20 ans, 110e mondial. Un petit jeune explosif à suivre demain. On pourrait vous parler aussi de Federer, de Nadal et de Djokovic.
Mais ça, on l'a déjà fait hier.
Jean-Laurent Bernard.
Le Suisse et l'Espagnol ont gagné facilement hier et le Serbe tout à l'heure, je vous le dis quand même.
En un mot ou deux, le programme du jour.
Alors, 7 Français sur les cours. Gaël Monfils face à Manarino, ça sera l'attraction. Lucas Pouille en fin de journée. En ce moment, Gilles Simon en grande difficulté. Et puis une Française à suivre, c'est la dernière en liste déjà, côté français, c'est Caroline Garcia.
Merci Thomas Séchier.
Allez, la suite du programme de l'Ascension, c'est un retour retour dans les années 90 et une visite au musée sans sortir de la maison.
Et c'est aussi la visite de Pollinarium, là où l'on détecte les futures allergies possibles. La météo du jour.
FranceBleu.fr. Toute la musique de France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.